Dis-moi, tu aimerais faire quoi quand tu seras plus grande?
Moi, quand je serai grande, je serai...
Et toi?
Quand je serai grande, un podcast d'une jeune femme de la campagne inspirée par de grandes dames de l'histoire, avec Hélène Grillon.
Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec celle que l'on surnomme la sirène australienne. Une véritable reine du ballet aquatique. D'ailleurs, elle est autant française qu'australienne, vous allez comprendre pourquoi. Notre héroïne du jour est tombée dans l'oubli alors qu'elle a été également l'une des plus grandes athlètes de cette discipline sportive, la natation. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de son nom auparavant. Pourtant, sa création est devenue un incontournable de l'été. Grande avant-gardiste et véritable pionnière de la mode, elle a permis, sans le savoir, à de nombreuses femmes de gagner en indépendance et de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Alors que les femmes se battent aujourd'hui dans le monde du sport pour le confort vestimentaire, en 1900, notre Australienne passionnée faisait scandale avec une tenue jugée indécente. Le maillot de bain, une pièce, appelé le Kellerman. Sans plus attendre, partons ensemble à la rencontre de cette fabuleuse artiste aquatique, inventrice de génie et athlète de haut niveau, au destin badass, pourrait-on dire, j'ai nommé Annette Kellerman. Je vous propose donc un petit retour en arrière, plus d'un siècle auparavant, dans l'Australie des années 1880. Sydney connaît un essor démographique important depuis que tous les promoteurs immobiliers du coin s'arrachent les terrains autour de la ville. Au total, Sydney et sa banlieue comptent à cette époque près de 230 000 habitants. Il y en a du monde. On dirait presque que la ville a jailli de la terre en une nuit. L'Australie est encore bien loin d'être indépendante, car elle est toujours sous la régie de l'Empire britannique. Pourtant, le sentiment de cohésion nationale est grandissant et il se prépare, à la fin de ce 19e siècle, un ambitieux projet d'autonomie et de constitution fédérale. C'est dans ce contexte de grand changement qu'un couple franco-australien donne naissance le 6 juillet 1886 à la petite Annette. Lui est violoniste et elle pianiste. Mais ce n'est pas la musique qui va intéresser en premier la jeune fille. Annette grandit à Marrickville, au milieu de la poussière et des bruits de l'industrialisation, alors que quelques années auparavant, cette vallée n'était rien d'autre qu'un vaste marais. Alors qu'elle n'a que 6 ans, la petite Annette est victime de la polio. Une maladie qui s'attaque à son système nerveux et l'oblige à être lourdement appareillée pendant des années. Et oui, il faudra attendre les années 60 pour qu'un premier vaccin contre la polio soit élaboré. Cette épreuve contraint beaucoup le quotidien de la petite Annette, mais va révéler en elle une force de vie incroyable. Sur les conseils du médecin de famille, elle doit renforcer ses muscles pour combattre la maladie. C'est ainsi qu'elle fait ses débuts dans une piscine. Cette passion ne la quittera plus désormais et va l'emmener loin, très loin, vous allez voir. It's a lovely day today. So whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. Pour l'heure, la jeune Annette passe des journées entières à nager. À tel point que lorsqu'elle a 15 ans, le médecin la déclare enfin guérie de la polio. Elle retrouve ainsi la force naturelle de ses jambes et pour couronner sa victoire sur de longues années de combat, elle devient championne régionale du 100 mètres nage libre. Et Annette, elle ne s'arrête pas sur sa lancée. Elle enchaîne les exploits et embarque dans une nouvelle aventure, il est temps de dire au revoir à l'Australie pour partir à la conquête du vieux continent et défier les nageurs européens en compétition. C'est sur ce nouveau terrain plein d'opportunités qu'elle va vivre de fortes expériences sportives. La première, et pas des moindres. En 1905, à seulement 19 ans, Annette s'élance dans une eau à 11 degrés pour tenter la traversée de la Manche. Après 3 tentatives, l'épreuve se solde par un échec, mais notre fabuleuse Annette bat néanmoins tous les nageurs masculins à plate couture. Car sans surprise, elle est la première femme nageuse à relever le défi. Des records, elle va essayer d'en battre aussi lors de longs marathons qui traversent le Danube et la Tamise. C'est au cours de ces événements sportifs qu'Annette commence à comprendre qu'il est impossible de nager vêtue d'une robe et d'un bas. Contrairement à ses homologues masculins, elle est obligée de porter un costume de bain qui n'a rien de confortable ni d'ergonomique. Prenons donc un court instant pour nous plonger dans l'histoire du fameux maillot de bain. À cette époque, il ne s'appelle pas maillot de bain. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un ensemble peu glamour, certes, mais aussi très lourd. Annette, grande nageuse de compétition, est bien placée pour savoir que cette tenue n'est en rien adaptée à la baignade. Sur les plages, les femmes qui veulent se changer à l'abri des regards sont même priées d'utiliser des cabines roulantes tractées par des chevaux jusqu'à l'eau. L'idée peut paraître complètement insensée aujourd'hui, et pourtant à l'époque, en Australie ou ailleurs, aucune cheville nue n'était tolérée. La morale puritaine, héritée de l'empire colonial britannique, a même interdit aux femmes la baignade en journée jusqu'en 1903. L'histoire du maillot de bain est donc intrinsèquement liée aux mœurs de la société de l'époque. Finalement, ils sont loin, hein, les bains de l'Antiquité romaine dans lesquels on se baignait nu. Are you having any fun? What you getting out of living? What good is what you've got if you're not having any fun? C'est en réaction à ces injonctions qu'Annette va commencer à réfléchir à une tenue qui permettrait aux femmes de se sentir enfin libres de leurs mouvements dans l'eau. Elle bricole une sorte de juste au corps d'une pièce, avec quelques sous-vêtements, et assume fièrement sa nouvelle création, même lorsqu'elle est invitée à nager devant la famille royale britannique. À Londres, les spectateurs sont choqués de découvrir une telle scène. Comment une femme ose-t-elle porter des vêtements aussi près du corps? Quelle indécence! S'exclame-t-il. Pourtant, sans le savoir, la scandaleuse Annette vient de changer le cours de la vie de générations de femmes après elle. Elle poursuit son travail sur le prototype du futur maillot de bain. Du fil dans une main et des ciseaux dans l'autre, elle entreprend quelques modifications en retirant le tissu des jambes. Progressivement, le juste au corps se rapproche du vêtement de baignade que nous connaissons toutes et tous. Alors fière de sa réalisation, Annette se baigne partout avec cette nouvelle tenue et parvient même à convaincre les organisateurs des événements sportifs auxquels elle participe de la laisser concourir avec son nouveau maillot de bain. Mais ce moment de répit n'est que bref, car en 1907, elle est arrêtée par la police américaine sur une plage de Boston. Les agents invoquent pour motif d'arrestation l'indécence. Même aux États-Unis, Annette se rend compte que le tabou qui entoure la nudité et le corps des femmes est aussi bien enraciné dans la culture. L'affaire va jusqu'au procès, durant lequel Annette plaide une nécessité technique liée à la natation. Elle est finalement acquittée par le juge et en un claquement de doigts, les femmes s'arrachent désormais sa nouvelle création. La ligne de maillot de bain Kellerman est commercialisée et devient un véritable phénomène de mode. Sur les photos de plage, toutes arborent fièrement leur nouvel accessoire. Merci Annette. Ce qui était au départ un projet personnel de couture devient le symbole de la revendication du confort vestimentaire. Annette défend avec ferveur des idées féministes. Elle soutient d'ailleurs le mouvement des suffragettes lorsqu'il secoue le Royaume-Uni et dénonce le port du corset. Outre sa carrière sportive, Annette accorde de plus en plus d'importance à la dimension artistique de sa discipline. Elle se découvre un véritable talent et une envie particulière pour la mise en scène de ses performances d'athlète. Entre plongées vertigineuses et numéros dans des aquariums, avec des costumes qu'elle se fabrique, notre jeune athlète et artiste crée des spectacles qu'elle fait tourner devant du public. Venez admirer la mystérieuse sirène. À cette période, notre artiste commence aussi à intéresser le cinéma hollywoodien. Si un producteur lui demande de nager au milieu des requins, Annette se lance avec enthousiasme. Elle réalise ses cascades seule, coud ses propres costumes et se révèle être une excellente comédienne. C'est grâce aux films dans lesquels elle met en scène ses talents de nageuse que la natation synchronisée voit le jour. Annette est alors à l'origine d'un nouveau genre cinématographique, mais aussi d'une nouvelle discipline sportive. Rien que ça. Elle ouvre la voie à d'autres actrices, comme Esther Williams, peut-être le nom vous dit quelque chose, une autre nageuse de compétition qui jouera Annette dans le film qui retrace sa vie en 1952. Au sommet de sa carrière d'actrice, le cinéma la salue d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Au total, Annette a tourné dans une vingtaine de films, notamment des productions américaines. Le seul film encore disponible à la lecture aujourd'hui est Venus of the South Seas. Mais le plus connu d'entre eux reste La fille des dieux. Ce film est la première production à avoir coûté plus $1 million. Pourtant, les esprits de l'époque ne vont retenir qu'une image à la sortie du film. Annette, totalement nue, dans le rôle principal. Ça aussi, c'était du jamais vu au cinéma. Les gens semblent être intrigués par le secret de la condition physique de cette jeune femme. C'est pour répondre aux questions qui se font toujours plus nombreuses qu'Annette décide donc de partager ses conseils en publiant un livre. Et quand Annette se met à écrire, le résultat devient rapidement un best-seller. L'engouement autour de la réception du livre est tel qu'elle lui donne une nouvelle idée. Pourquoi ne pas créer une méthode par correspondance pour permettre au maximum de monde de profiter de ses conseils ? Vous l'aurez compris depuis le début de ce portrait, Annette et le bien-être, ça fait un. Grâce à sa nouvelle passion pour l'écriture, elle compile plein d'astuces et revendique les bienfaits de l'activité physique, particulièrement auprès des femmes qui sont, à l'époque, peu habituées à ce discours. Et son action va l'emmener loin, puisque fervente convaincue que la santé est également liée à l'alimentation, elle décide alors d'ouvrir une petite épicerie, dans un petit coin de la Californie. Mais pas pour longtemps, car il est venu le temps de dire farewell aux États-Unis. Annette retourne vivre en Australie. Tout en continuant d'écrire, notamment des livres pour enfants, Annette pratique inlassablement la natation jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 89 ans. À son décès, ses cendres seront dispersées le long de la Grande Barrière de Corail en Australie, comme pour lui permettre de reposer dans l'eau qui lui a offert tant de belles expériences de vie. Athlète, actrice, femme d'affaires, créatrice de mode ou encore écrivaine, le destin d'Annette Kellerman ne peut se résumer en un seul mot. Mais retenons de cette belle sirène australienne son fervent combat pour le bien-être féminin et la pratique sportive. En ouvrant les portes de la natation et des compétitions sportives aux femmes, Elle a permis aux générations suivantes de gagner en confiance en elles et de croire ardemment en leur potentiel. Quant à son invention, le maillot de bain, il est bien plus qu'un simple vêtement, et vous le savez. Il est devenu une pièce emblématique de la mode, mais surtout, une claque aux conventions de l'époque. Car Annette, elle aimait casser les codes. En somme, cette petite fille combative de l'Australie a trouvé ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de la passionnante Annette Kellerman. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse, car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour partir à la rencontre d'une véritable pionnière de la médecine légale, une experte de la criminologie. Cette Sherlock Holmes au féminin a pu réaliser son rêve à 52 ans, enfin libérée de l'approbation de sa famille. C'était une spécialiste des reproductions miniatures de scènes de crime, et il faut dire que cette incroyable femme nous plongera dans les dessous des enquêtes du milieu du XXe siècle. Élémentaire, me direz-vous. En attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.